Vous écoutez le supplément de Tech Café, le supplément qui complète l'épisode 396 enregistré le 28 janvier 2025. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode et surtout je suis ravi de retrouver le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogzaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Mais très bien, je suis même flatté que tu sois plus ravi.
Ah ben, je suis très ravi et je suis content aussi parce que ben, en plus des news incontournables hebdomadaires que les auditeurs ont eu l'occasion d'écouter dans l'épisode précédent dans le flux du podcast, on a d'autres sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble qui ont nourri ta veille et je me réjouis qu'on puisse avoir aussi des réactions de la part de nos auditeurs sur le serveur Discord, techcafé.fr/discord. C'est un endroit où vous pouvez alors certes réagir à ce qu'on dit dans les épisodes, mais aussi où vous pouvez discuter entre vous et avec nous de plein d'autres sujets. Il y a des rubriques pour de la lecture, pour les médias de type série. On parle aussi d'une petite rubrique sur les LLM pour celles et ceux qui aiment bien expérimenter avec les usages des intelligences artificielles, parfois en local, parfois avec les services en ligne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Discord. Et puis aussi, hein, si jamais le podcast continue à vous rendre service, à vous divertir, à faire en sorte que les moments que vous passez dans la journée, vous êtes dans les transports, vous faites du ménage, du sport, du bricolage ou de l'art. Tiens, pendant que vous faites des activités artistiques, vous écoutez peut-être des podcasts. Et si jamais vous rendez, si jamais vous joignez l'utile à l'agréable en écoutant Tech Café en même temps, ça vaut peut-être le coup de vous abonner sur Patreon. Ça vous permettrait de ne plus avoir de publicité. Ça, c'est un avantage indéniable. Mais aussi et surtout, ça vous permet de prendre part très concrètement à la durabilité de Tech Café et de vous assurer qu'on sera là encore très longtemps, on l'espère en tout cas, pour vous offrir ces émissions. Merci en particulier au soutien Patreon de la semaine pour lesquels on a déroulé de tapis rouges, Microfire, Marc Simon, Laurent, Jean-Jacques Wadzo, Geekophone FR, Sakaben, Sakatia. Merci beaucoup à vous de vous être inscrits. Vous prenez peut-être la place hein, d'ailleurs d'autres personnes qui ont préféré suspendre leur abonnement parce que oui, le gros avantage de cet abonnement sur Patreon, c'est que c'est sans engagement. Vous êtes prélevé d'un montant que vous choisissez pour chaque diffusion d'un épisode hebdomadaire. Donc, considérez l'épisode que vous écoutez actuellement là comme un épisode bonus gratuit. Alors, ce fonctionnement, il est encore un peu obscur sur Patreon, des prélèvements par épisode. Et ça va changer, d'une part, parce que Apple les y a forcés quelque part. Je reviendrai sur les détails et pourquoi du comment à l'avenir. Mais dans quelques semaines, quelques mois maintenant, il va falloir passer à des abonnements mensuels sur Patreon. L'idée, évidemment, c'est que vous vous y retrouviez. Vous ne paierez pas plus cher en fin de mois. Mais ce sera plus un fonctionnement qui dépendra de la parution des épisodes hebdomadaire. Petit bonus pour celles et ceux qui s'inscrivent sur Patreon avant cette bascule, vous pourrez continuer à plafonner vos participations mensuelles, ce que ne pourront plus faire les personnes qui s'abonneront lors du changement. C'est, à mon avis, la raison ultime qui devrait achever de vous convaincre de vous inscrire, si ce n'est pas déjà le cas, sur patreon.com/techcafé. Guillaume, sans autre forme de procès, on a des nouveaux sujets autour de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que maintenant, chaque épisode supplément, c'est la revue des IA de la semaine. Et à chaque fois, le curseur est repoussé un petit peu plus en matière de qualité, en matière de choses qu'on ne pensait pas encore possibles il y a de ça quelques mois et qui arrivent là concrètement sur les machines qu'on peut utiliser. Ça commence avec de l'inpainting en vidéo.
Oui, les modèles de la semaine, effectivement, en mode mitrailleuse un petit peu, parce que voilà, ce n'est pas forcément des news très longues, mais il y en a quelques-unes qui sont marrantes et qui... Bah, comme tu dis, hein, qui montre un petit peu l'évolution de la frontière. Quoi. Et donc, on commence le tour d'horizon avec un concept simple, mais qui n'est pas si facile à mettre en œuvre, hein, qui est l'inpainting sur des vidéos. Ça, c'est un truc que fait Diffuser. Voilà, ce truc-là, qui est pondu par Alibaba Group, et qui permet, pour le faire vite, hein, d'effacer des gens ou des chiens sur des vidéos. C'est un truc qui est devenu classique avec les photos, hein, voilà, sur un pixel, hein, sur un téléphone lambda.
Sur
presque,
un S25.
Voilà, vous pouvez virer un labrador en train de faire caca sur la plage au soleil couchant pour avoir du coup une photo un petit peu plus romantique. Et ça, c'est classique, mais en vidéo, c'est plus compliqué, évidemment, puisqu'il faut reconstruire le décor caché par le chien et le faire d'une manière qui soit cohérente d'une image sur l'autre, et ça, évidemment, c'est pas évident. Donc Alibaba parle pourtant d'un modèle très simple, assez classique, hein, puisqu'il parle de Stable Diffusion, tout simplement. Et il y intègre évidemment divers guides pour conditionner la génération de l'arrière-plan au filtre qui bouge, donc le sujet en tous les cas, votre masque qui peut bouger évidemment, puisque vous avez une vidéo, donc votre sujet peut bouger, et vous avez une attention croisée entre les images elles-mêmes, de la séquence vidéo. Donc, on rajouterait une dimension, quoi. Et on a plusieurs démos, et ça marche plus ou moins bien, mais ça peut marcher assez bien dans des cas qui sont relativement simples, en fait, où la caméra ne bouge pas trop, où le sujet est assez bien identifiable, avec des contours qui sont bien identifiables. C'est franchement pas trop mal, même si, ça c'est très rigolo, les reflets et les ombres restent. Donc il y a vraiment un côté très étrange dans ces vidéos éditées. C'est de l'in-painting, hein, c'est-à-dire que c'est pas la vidéo qui est modifiée et resynthétisée. C'est la même vidéo avec des morceaux qui sont complétés. Alors pour un modèle gratuit, parce que bon, c'est un truc open source encore une fois, hein, et qui utilise finalement simplement Stable Diffusion, c'est quand même assez prometteur. Ça veut dire que la retouche de vidéo, comme on retouche aujourd'hui les photos, arrivera sans doute bientôt, quoi.
Ça avance, et pour autant, c'est pas encore un outil qui permet de retirer des éléments qui seraient dans le cadrage, tu vois, d'une vidéo qui serait un peu accessoire sur le côté. Il faut vraiment que ce soit des sujets bien reconnus, c'est ce que je retiens, finalement.
Non,
tu peux pas faire.
Ça dépend.
Faudrait
en fait,
tester.
Non, mais si tu peux le faire, en général, ça va dépendre de... Non, mais si, tu peux faire ce genre de truc. Les trucs les plus compliqués, finalement, c'est encore par exemple, si tu as un train, que tu vois avec des questions de trucs où il y a beaucoup de détails, par exemple des petits détails qui sont difficiles à isoler, ou si tu as des choses qui bougent vite ou de manière un peu bizarre, tu vois, ça peut être plus difficile, mais bon, après
on continue en entrant dans la quatrième dimension. Donc oui, la 3D, l'espace, mais dans le temps. Waouh, encore une étape de franchie.
Oui, ouais, on passe en 4D même, effectivement, avec G-Star, qui est capable de capturer des sujets 3D et en mouvement. Donc imaginez un gars qui enlève son blouson, ben voilà, vous avez son modèle 3D qui bouge et vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle synthétique. Ouais, bon, c'est du déjà vu, quoi. Bon, il le fait en éclat de gaussienne, mais aussi en polygone. Bon, c'est toujours trop classique. Bon, alors imaginez que le gars en question, il enlève vraiment son blouson et le fout par terre, comme un gros malpropre. Eh bien, G-Star, ça ne le perturbe pas, ça. Il va créer une géométrie qui va bien. Il va distinguer tout seul les objets différents et il va les séparer. Il va gérer les changements de topologie. Voilà, comme on dit, pour employer un mot qui fait quand même sérieux. Il y a donc une cohérence dans les objets qui sont capturés, de sorte que le modèle final, qui est un objet 3D photoréaliste texturé, hein, mais qui est aussi complètement éditable, et qu'on peut, on peut rajouter ou enlever des éléments, ou rajouter, enlever des objets. Donc, par exemple, ce blouson, on peut le remplacer par autre chose ou l'enlever, et ça très facilement. Et on scanne un gars qui prend un carton par terre, on peut l'avoir en 3D complètement reconstruit, qui fait ça en mouvement, et on peut changer le carton en rocher, par exemple, ou lui ajouter un casque et l'intégrer ça n'importe où, tout ça très facilement. Il n'y a plus besoin de nettoyer les trucs à la main, tout ça.
Eh ben génial, j'ai cru que tu allais nous donner des cas d'usage, parce qu'effectivement c'est bluffant, mais je ne vois pas spontanément quelles pourraient être les mises en application. Enfin, en tout cas, la prouesse sur le plan technique, elle est là. On continue avec des éclats de gaussienne, non? Pas tout à fait.
Oui, si, j'ai vu passer ça sur YouTube. C'est une nouvelle fonction qui sera offerte par Spline, qui est une boîte qui fait déjà la génération 3D, mais qui est assez bluffante. En fait, vous lui donnez une image et le modèle vous imagine tout ce qu'il y a, enfin tout ce qu'il ne voit pas, quoi, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a derrière, etc., pour créer un Gaussian splat, quoi, effectivement des éclats de gaussienne de ton sujet. C'est littéralement du 2D tout 3D, mais pour la scène entière. C'est-à-dire, vous avez une image d'un arbre dans une forêt. Ben vous aurez un Gaussian splatting, c'est-à-dire une photo en 3D où vous pourrez tourner autour de votre arbre comme vous voulez, tout en voyant toujours autour un décor crédible, donc une forêt sans doute, hein, avec d'autres arbres imaginés par le modèle. C'est pas forcément très distinct, d'ailleurs, l'arrière-plan parfois est un petit peu flou, bon voilà, mais en tout cas, le sujet lui-même est très bien représenté, c'est vraiment comme si vous pouviez plonger dans votre image, en fait. Le modèle utilise un générateur vidéo, en fait, pour créer tous les angles de vue. Donc c'est du en fait, image to vidéo, concrètement, hein, et la vidéo, c'est une vidéo particulière, qui fait le tour du sujet, tout simplement. Et il imagine donc le sujet et les informations donc, qui sont censées être autour. Et tout ça est envoyé dans un générateur de gaussienne qui va produire cette espèce de photo 3D. C'est pas parfait, mais c'est quand même un peu magique. Hein. C'est vraiment, on peut rentrer dedans, quoi. C'est encore un exemple de générateur 3D qui fabrique des environnements entiers, comme on en avait parlé déjà, au moins de deux déjà, hein, et qui fleurissent un petit peu comme des champignons, si je veux dire. Il y en a d'autres, par exemple, il y a... attention, acrobatie. Il y a un générateur qui s'appelle Unyan 3D 2, c'est la version 2.0, qui est un modèle de Tencent en open source, qui est librement téléchargeable, hein, et qui prend lui aussi une image et qui crée un objet 3D texturé à partir de ça, avec un niveau de détail qui a l'air vraiment très correct. Et de toute façon, si vous voulez vous faire une idée de la multiplicité des générateurs 3D et de leur niveau de qualité, eh bien vous allez le voir vous-même, puisqu'il y a une arena, la 3D Arena de Hugging Face, dont le principe est le même, hein, que pour les LLM, hein, c'est-à-dire qu'on vous présente deux générations, donc là c'est deux objets 3D qui ont été faits par deux modèles différents, et puis vous dites laquelle est la meilleure, tout simplement, et ça permet de faire un classement. Et donc il y a un top des générateurs qui pourra évidemment varier en fonction du temps, quoi, tout simplement. Et pour l'instant, c'est Trailis 3D GS qui est au top, mais ça va sans doute pas mal évoluer, vous pouvez aller voir ça.
Vous pourrez prendre part à l'arbitrage des meilleurs générateurs 3D. On continue avec les remplacements, mais peut-être pas par les IA, par les stagiaires, Guillaume, c'est beaucoup plus simple, enfin.
Bah, stagiaire de quatrième, c'est plus simple, et puis c'est moins cher sans doute hein, que
ah,
Devine.
Oui. Devine, ça consomme moins d'énergie. Ah,
ça
quoi,
ça, je sais pas, ça mange, hein, stage-là.
Ça mange.
On avait déjà parlé de Devine, c'est un agent pour générer du code qui est fait par Cognition et qui était, enfin, à une époque, c'était une démo incroyable, c'était une des plus sophistiquées, hein. C'était peut-être le premier à aller aussi loin. Parce que Devine ne fait pas que générer du code, c'est vraiment un agent à qui on donne une tâche complexe et qui va planifier son travail, va chercher la doc tout seul sur Internet, générer du code, le passer en revue, le débugger, etc., de manière itérative et complètement autonome. Donc Devine avait vraiment fait forte impression, il était sur GPT-4 à l'époque, aujourd'hui il y a des alternatives comme Bolt ou Cursor d'ailleurs, mais Devine est disponible, ça y est, il n'y a pas très très longtemps, et il est très cher, il coûte $500 par mois, il promet beaucoup, mais est-ce qu'il vaut $500 par mois, qui est quand même un salaire très bas pour un développeur, mais enfin bon, ça dépend du niveau du développeur peut-être. Donc Devine est basé sur Slack et GitHub, et il repose sur plusieurs modèles en fait qui interagissent, et il peut tout faire tout seul de zéro, des choses assez compliquées comme, je sais pas, migrer une base de code, créer un site web, une application iOS, hein, mais il peut aussi vous commander un tacos aux champignons d'ailleurs, hein, il n'y a pas besoin d'opérateur.
Mais qu'est-ce que t'as avec les tacos aux champignons?
Je sais pas ce qui m'arrive avec les tacos aux champignons.
C'est pas bon en plus les tacos aux champignons.
mais bon, en fait, en tout cas, voilà, tout ça pour $500 par mois, en même temps, il peut bien t'aller chercher un tacos. Enfin bon. Donc ça, il y a eu des tests, évidemment, à ce prix-là, les gens veulent avoir une idée si ça vaut le coup ou pas. Et Devine s'en sort pas trop mal pour des tâches pas trop compliquées. Il a, par exemple, tout seul extrait des données d'une base de données Notion et il l'a mise dans un tableur Google Sheets. Il a créé un simulateur d'éphémérides pour les positions des planètes, ce qui est une belle réussite quand même. Hein.
Bravo.
C'est assez impressionnant. Après, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des heures, hein, voire des jours d'ailleurs. Et c'est pas aidé par le fait que Devine peut être complètement stupide et s'acharner à faire des trucs impossibles pour toujours.
Comme un stagiaire.
Parce que Devine peut partir dans un délire et planifier un truc qui est beaucoup trop compliqué pour la tâche demandée et s'y perdre complètement. Et il peut aussi halluciner des trucs et s'acharner à utiliser des fonctions ou des services qui n'existent pas. Et il tourne en boucle parce qu'il est persuadé que cette fonction existe alors qu'elle n'existe pas. Et du coup, c'est un problème. Donc, il reste en boucle dans son délire. Sur 20 projets donnés, dans le cadre d'un test qui a été fait par le blog Answer.ai, 3 ont été des succès, 3 ont été des demi-échecs et 14 ont été des échecs. Et le pire, peut-être, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si Devine va se planter. Parce qu'on ne peut pas se dire « Non, ça, c'est trop compliqué, ça va le perturber. » Ou alors, on sait qu'il y a des trucs qui le perturbent. En fait, c'est très difficile. C'est même si une tâche est facile, tu ne sais jamais trop. Tu ne sais jamais à quel moment il va se prendre les pieds dans le tapis. Devine, utilisant des modèles externes, il va évoluer. Hein. Il est très ambitieux, il faut dire. Hein. Et bon, avec de meilleurs LLM, évidemment, fournis par OpenAI ou d'autres, hein, ça pourrait changer. Mais pour le moment, il semble quand même peut-être trop ambitieux pour son propre bien. Il y a des solutions peut-être plus accompagnées, qui sont directement intégrées à l'IDE, qui sont beaucoup moins chères, comme Cursor par exemple, qui sont peut-être aussi plus viables.
Le chouchou du moment, vous l'avez compris, il nous vient de Chine, c'est DeepSeek, on en parle dans tous les derniers épisodes. Je vous avais déjà expliqué un petit peu hein, pourquoi et il était remarquable, de par notamment son économie et le fait que la Chine était peut-être un petit peu contrainte et que du coup, avec un certain nombre de contraintes, ils arrivaient à faire des prouesses. On continue à parler de DeepSeek.
Mais oui, c'est un énorme succès, il est devenu une des applications les plus téléchargées sur Android, et Pat Gelsinger lui-même l'a adopté. Et oui, on a des nouvelles de ce brave Pat. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors Pat,
mais
qu'est-ce
oui,
qu'il devient?
Il est peinard en retraite devant tout le monde veut prendre sa place? Eh ben non, même pas. Il a lancé une start-up qui s'appelle Glue, et qui est une sorte de réseau social pour les églises. Bon, Pat à la fois, donc apparemment. D'ailleurs, il en fallait pour reprendre les rênes d'Intel, donc je peux comprendre.
À la fois.
Et Glue aura un chatbot, évidemment, parce que 2025. Et alors, ça aurait pu être GPT, hein, sans problème, sauf que bah, DeepSeek, il est open source, donc why not? Et donc, voilà, on est sûr que les paroissiens, du coup, ne parleront pas mal de Xi Jinping. Ça, c'est très bien. Alors, revenons à DeepSeek, parce que quand même, déjà, c'est qui, DeepSeek? Qu'est-ce que c'est?
Ça dépend de comment ils sollicitent DeepSeek, si ce n'est pas la version qui est mise à disposition. Et
oui, c'est vrai. Alors, effectivement, tu fais très bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas mentionné, mais DeepSeek est censuré via son API et via le site web, mais il semblerait qu'il ne le soit pas quand vous le téléchargez et que vous l'utilisez en local. Donc, c'est assez marrant.
Quand il est sollicité avec Perplexity, par exemple, je pense qu'il ne doit pas l'être non plus, par exemple.
En gros, ça dépend si vous avez fait une copie quelque part, quoi, et que vous utilisez cette copie. Quoi. Mais bon, donc revenons à DeepSeek. Alors DeepSeek, déjà, c'est qui ces gens? Parce que c'est vrai que, évidemment, on les connaissait pas, hein, il y a pas longtemps, quoi. Parce que c'est une toute jeune boîte qui, en fait, est un fonds d'investissement à la base, qui a été fondé par Lian Wenfeng en mai 2023. Et son truc, c'était d'utiliser de l'IA sur les marchés financiers. Alors là, ils auraient dans les 8 milliards d'actifs en ce moment, mais c'est pas un labo de recherche traditionnel, on va dire. Les LLM DeepSeek ont été créés parce que le boss avait une lubie, quoi, une obsession, et qu'il a fini par allouer quelques ressources à ça. DeepSeek a sorti déjà l'an dernier hein, des modèles qui étaient très doués pour le code, on en avait parlé probablement dans les épisodes pratiques, et puis des mélanges d'experts assez compétitifs, ont plusieurs tailles, mais leur premier grand fait d'armes, c'est des DeepSeek V2, V3, en particulier V3, hein, le tout dernier, qui est aussi bon que GPT-4 et qui est complètement open source, open weight, hein, que vous pouvez télécharger et utiliser. Puis est venu ensuite DeepSeek R1, qui rivalise avec O1, hein, et dont on a parlé dans l'hebdo. Alors, on ne connaît pas le budget précis pour DeepSeek R1, mais on connaît ce que nous en disent en tout cas les gens de DeepSeek pour la V3. Et c'est le modèle sur lequel est basé R1. Et c'est famélique. V3 a atteint le niveau de GPT-4 en 2 mois sur 2048 GPU H800. Alors donc, c'est vrai qu'ils auraient donc utilisé bien des GPU de Nvidia, effectivement. Et d'ailleurs, ils leur donnent même des conseils pour améliorer leur puce, hein, c'est encore mieux. Alors, si vous vous souvenez, peut-être on avait parlé les H800. Ce sont les versions bridées des H100 que Biden avait autorisé un temps les Chinois à acheter. Donc, c'est même pas équivalent à 2048 plus H100 qu'on a en Occident, alors que justement, ici, on se la raconte avec des clusters à 100 000 H100 dans un futur proche, 1 million de H100. Bon, ok. Sans compter qu'à côté, les effets d'annonce à 500 milliards de dollars, hein, DeepSeek a atteint le niveau GPT-4 avec 5 millions de budget, en temps de calcul. Hein. Donc, c'est littéralement de l'argent de poche. Pour n'importe quel hyperscaler, c'est de l'argent de poche. C'est à ce point d'ailleurs, c'est à ce point peu qu'il y a pas mal de gens qui n'y croient pas et commencent à y avoir des théories du complot comme ça. Bon, bref. Alors, comment ils ont fait, en tout cas, voilà, comment ils ont fait ça, autant qu'on le sache, quoi. Ben déjà, on ne connaît pas le mix de données, hein, le dataset qui doit être de bonne qualité, évidemment, mais bon, on n'a rien de précis là-dessus. Par contre, il est détaillé dans le rapport technique, parce que le code est un open source, il y a un rapport technique dessus hein, qui est ouvert. Il y a donc à OT détaillé quelques optimisations qu'a fait DeepSeek, et pour résumer, bah, ils ont bossé à fond l'optimisation des ressources qu'ils avaient, parce que quand on a des moyens limités, bah, on est forcé de devenir un peu plus créatif, quoi. Ils sont allés très proche du métal, hein, ils ont réécrit tout leur kernel CUDA eux-mêmes, ils ont géré de manière perso la communication entre les nœuds, ils ont même programmé presque un quart des multiprocesseurs de leur carte, pour ne pas faire de calcul, mais pour gérer les flux entre les GPU eux-mêmes. Alors pourquoi ? Ben parce qu'en faisant ça, ils ont pu superposer au maximum les temps de calcul et les temps de transfert. Parce que, ben évidemment, vous pouvez faire des calculs sur 2048 GPU à la fois, ben il y a des échanges de données, quoi. Et ces échanges de données, c'est forcément des goulets d'étranglement. Donc, c'est comme si une partie du GPU lui-même était un système de cache de niveau 3, un cache L3 pour le réseau, pour faire simple. Un quart de la GPU est une sorte de cache avec son contrôleur, et ça a permis de réduire à presque zéro les latences et l'utiliser à 2040, les 2048 cartes pratiquement comme une seule, quoi, sans latence.
Waouh, c'est beau.
Et ça, c'est du boulot, parce qu'une H100 ou une H800, ça a plein de niveaux de mémoire différents, ça a plein de niveaux de réseau aussi, puisqu'il y a le NVLink pour la communication dans le nœud, à l'intérieur du nœud, entre les cartes d'un même nœud, et puis la InfiniBand quand tu passes à l'extérieur du nœud. Et donc, le contrôleur de cache, il a quand même du boulot pour rendre tout ça à peu près transparent pour les autres trois quarts du GPU, qui bossent sur l'entraînement du modèle, en fait. Hein, c'est eux qui font les calculs, et voilà, ils discutent comme ça. Donc, il y a un autre gros point d'optimisation, c'est l'utilisation de la précision 8 bits pour économiser de la mémoire au maximum. Donc, ils utilisent le 8 bits au maximum, même s'ils ont quand même besoin de plus de précision, parfois. Et là, ils vont encore rester au plus juste, quand même. Donc, ils vont vraiment essayer d'économiser la mémoire autant que possible. Ils vont même recalculer inutilement, entre guillemets, des valeurs qui pourraient être réutilisées, mais qui vont virer la mémoire et recalculer parce qu'ils ne veulent pas qu'elles prennent de la place et de la bande passante en mémoire, et parce qu'ils n'en ont pas à revendre, quoi. Et donc, c'est en potassant au maximum les capacités et les caractéristiques de leur matos que les gens de DeepSeek viennent même faire des recommandations à Nvidia, leur dire, voilà, votre manière de faire des multiplications 8 bits par 8, elle est un peu naze, en fait, hein, il va falloir nous changer ça. Par ailleurs, on a aussi expliqué la dernière fois que DeepSeek aime les mélanges experts, hein, et qu'ils ont aussi mis au point des petites améliorations, ici et là, voire des vraies innovations, hein, pour améliorer l'entraînement de tout ça. Et donc, en empilant tous ces trucs petit à petit, bah, il semblerait qu'on puisse être vraiment plus efficace que ce que font les Américains. Mais ça reste du déclaratif quand même. Hein. Et c'est certain que c'est flatteur pour la Chine aussi de tourner un peu en ridicule son grand rival en montrant à quel point eux, ils sont plus efficaces et que voilà, ouais, vous nous faites des restrictions, on s'en fout, nous, on est plus intelligents. Bon, en gros,
c'est... Soft power quand tu nous tiens.
Évidemment. Et alors, je pense que... Oui, c'est clair que c'est le cas, mais DeepSeek a aussi fait très fort. Hein. Quand même, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre, en fait, et je pense qu'il montre un exemple d'ingéniosité. Et c'est un exemple d'ingéniosité qui pourra bénéficier à tous, puisque OpenAI, il jette des milliards à la tronche des problèmes et il publie pratiquement rien. Et pendant qu'ils vantent fièrement un abonnement à 200 balles par mois, les Chinois sont 10 fois moins chers au token, parce que GPT-4 haut déjà. Alors que les prix des IA américaines ont tendance à monter, les Chinois font des promos. Donc, parce que ça, que vous croyez
c'est
ou pas,
prix Temu.
Que vous croyez ou pas effectivement que DeepSeek a réussi avec 5 millions à arriver au niveau de GPT-4, ce qui est clair, c'est que les prix, c'est pas les mêmes. Pour les capacités, si tu veux, ça n'a rien à voir, quoi. Et ça, c'est un avantage tangible. Pour conclure, d'ailleurs, on peut mentionner qu'Alibaba vient aussi de lancer une nouvelle ligne de modèles, hein, deux en fait, elle avait des versions 2.5 de Qwen, en mode texte qui supporte aussi des longueurs de contexte de 1 million de mots, donc c'est énorme, hein, c'est-à-dire que vous pouvez... c'est les Qwen 2.5 1M, c'est leur nom, hein, et donc ces trucs-là peuvent valer un énorme bouquin, voire plusieurs bouquins, et puis tu peux discuter dessus sans souci, faire tout ce que tu veux. Mais c'est pas tout, il y a la famille des Qwen 2.5 VL qui sont arrivés, qui sont multimodaux, qui peuvent donc, bah, alors comme Claude ou GPT, interpréter les images ou les diagrammes, hein, mais en plus, ils seraient très bons pour comprendre les interfaces graphiques sur les ordinateurs ou les téléphones, et donc ils seraient capables de faire comme opérateur. Ça pourrait être la base d'opérateur que tu peux télécharger et faire toi-même en réalité. C'est l'agent que vient de sortir OpenAI, dont on a parlé en hebdo. Tout ça, c'est attesté, c'est encore tout frais. Donc, il y a beaucoup d'informations à récolter là-dessus. Bon, que les chiffres soient précis ou pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas le budget précisément de R1. Là, on a parlé du budget qui était mentionné dans le rapport de O1, enfin de DeepSeek V3, pardon, je vais y arriver. De DeepSeek V3. Il y a déjà, d'ailleurs, il y a déjà il y a déjà Elon Musk qui est en train de dire qu'en fait, ils sont beaucoup plus de GPU que ce qu'ils disent,
menteurs.
Voilà, qu'ils sont des menteurs. Bon, je ne sais pas, moi je dis ce que j'ai dans les rapports. Clairement, ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient. Toutes les optimisations qu'ils ont sorties et les techniques qu'ils utilisent, je pense que c'est des choses qui peuvent bénéficier à tout le monde. Et ça, c'est quand même vraiment cool.
Sam Altman a applaudi les performances de DeepSeek. Il dit oui, mais nous, on revendique quand même qu'on va faire de la surenchère. Je le caricature un petit peu, mais dans les réactions, il y a quand même de ça. On peut se poser la question, d'ailleurs, quand on voit des modèles open source qui arrivent comme ça, aussi performants, est-ce que finalement, un des plus gros éclipsés de cette histoire, ce ne serait pas les lamas de Meta, Guillaume ?
Non, pas vraiment. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment éclipsés. Hein. Le truc, c'est qu'ils les utilisent eux-mêmes beaucoup et ça fonctionne bien. Pour le coup, en open source, les lamas sont toujours des modèles qui sont relativement puissants, mais qui sont un peu effectivement éclipsés par les Qwen en open source. Parce que pour le coup, c'est vrai que à la même, les Qwen 2.5 sont vraiment très efficaces, quoi. Après, bon, écoute, je sais pas. En tous les cas, il y a une anecdote rigolote, puisque tu parles de Mark Zuckerberg, plus ou moins directement. C'est une anecdote qui est cocasse ou horrifiante, je sais plus trop en ce moment, c'est un petit peu toujours pas les deux à la fois. Puisque Mark Zuckerberg a liké une photo artificielle, et c'est en plus une photo classique, parce que c'est une jeune femme qui pose devant un cheval qui est fait en pain brioché. Un cheval, voilà, il est énorme en plus, hein, c'est un gros cheval. Et le commentaire aussi est très classique, j'ai fait ça avec amour, mais tout le monde s'en fout. C'est classique parce que ce schéma de poste est très courant dans les images virales qui passent sur Facebook.
C'est insupportable.
Ça peut être un petit garçon devant une sculpture incroyable, ou un brave artisan
une mamie
devant...
avec un crochet.
Ouais, voilà, une mamie qui a fait, je sais pas, la tapisserie de Bayeux, qui a dit « Ah, mais tout le monde s'en fout !» Ben oui, tout le monde s'en fout. Voilà, donc 99% de ces images sont des fakes, des images génératives hein, qui sont produites à dessein pour faire du buzz et être likées par des gens qui connaissent que dalle. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que l'image du cheval, elle a été créée exprès pour alerter sur ce slop qui envahit les réseaux sociaux. C'est le Chala Horse qui a été créé par un média polonais qui s'appelle Donald.pl pour dénoncer justement le spamia sur Facebook. Et donc Donald, alors non, pas celui-là, l'a posté à un moment et puis il est devenu viral. Voilà, il est devenu un vrai mème avec le schéma « j'ai fait ce truc, mais personne ne m'a félicité ». Et ça a été repris des millions de fois, même par des marques connues comme Ikea, puisque c'est vraiment devenu un mème. Mais sur Facebook, chaque fois, il y a plein de gens de bonne foi qui félicitent la boulangère synthétique hein, devant sa brioche synthétique. Et le Chalahorse, ça n'a plus de bride, hein, il est parti galoper follement sur tous les réseaux. Donald a perdu le contrôle de la bête. Et la semaine dernière, cette même image a été vue et likée par Mark Zuckerberg lui-même. Alors, qu'en déduire que Marc n'a pas la ref, ou qu'il a la ref, et que son like est ironique, est-ce que parce que c'est accompagné d'un clin d'œil malicieux, je ne sais pas. Ou bien, voilà, il est sincère, il pense que le cheval existe et que donc il est devenu boomer direct. Je sais pas, regarde son visage, son virage réa collerait bien à ça. Hein. Ou alors il s'en fout, si c'est vrai ou pas. Il like parce que c'est fun. Ça collerait ouais, aussi peut-être. Bien avec notre époque post-vérité. Post-vérité, post-honnêteté, post-dignité, post-intelligence apparemment aussi. Il s'en fout, puis il me dit, ah, mais non.
Ouais, j'ai tendance à penser quand même qu'il l'a liké en connaissance de cause et que bon, tout cela n'est pas coïncidence. On enchaîne, Guillaume, avec une section sur les relations publiques, à commencer par Microsoft, qui, selon toi, alors en matière de marketing et de facturation, devrait peut-être s'inspirer un petit peu plus de Netflix, à savoir peut-être ne pas exploser ses abonnements de plus 30% d'un coup, mais le faire petit à petit, ça passe crème, c'est ça ?
C'est fou, hein, toi aussi tu aurais peut-être fait comme ça, je sais pas.
Bah ouais.
On en parlait encore la semaine dernière, qu'il a augmenté de 30% les tarifs à cause de l'IA, et ben ça gueule beaucoup, on sait pas combien de temps d'ailleurs les abonnés pourront encore se rabattre sur son offre sans copilote, mais sans doute pas bien longtemps. Mais ça passe très mal, la surprise est totale, ça gueule sur tous les forums, ça insulte, et si les menaces de mort n'étaient pas modérées, je pense qu'il y en aurait un sacré paquet. En fait, les premiers retours montrent surtout que pas grand monde ne veut payer pour avoir une IA qui est considérée souvent comme un gadget, voire comme une gêne. En particulier, l'offre familiale hein, donne un accès à Copilot qui n'est que très marginalement utile, peut-être dans le cadre familial surtout. Hein. En plus, il semble y avoir des soucis si tu as à la fois un compte pro et un compte perso, finalement, bah, c'est compliqué pour avoir accès aux deux. Enfin, sur les deux comptes, sans compter que l'annonce a été soudaine, souvent ratée, hein, que les gens se sont retrouvés devant le fait accompli, sans pouvoir vraiment faire machine arrière, l'accès au plan standard étant bien sûr soigneusement caché. Alors le fait que Microsoft augmente les prix, c'est pas forcément un scandale en soi, hein,
ouais.
Parce qu'ils n'ont jamais augmenté les prix hein, depuis l'introduction de 365. Mais bon, ils ont fait ça n'importe comment. Et pourtant, c'était pas difficile, puisqu'effectivement, Netflix a montré la voie. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui monte ses prix très régulièrement et que personne ne menace de mort pourtant. C'est Netflix qui va encore augmenter ses prix aux États-Unis. Hein, 8$ le ticket d'entrée avec pub, 25$ le pack luxe. Oui, mais Netflix le fait avec un minimum d'intelligence. Il est passé de 7 à 8$, donc on n'augmente pas de 30% d'un coup. On sait pourtant bien que c'est facile hein, pour ébouillanter une grenouille. Il faut réchauffer l'eau très progressivement, sinon elle se barre en te coassant la gueule. Netflix a réussi, lui. Il est devenu aux États-Unis le nouveau câble et il va faire payer exactement aussi cher. Hein. Alors, il est passé de 8 à 18$ par mois sans pub en 13 ans. Ça a plus que doublé, mais en 13 ans, par petites touches, souvent, même un petit peu. Voilà, la grenouille, elle est cuite à point là. Elle est tendre mais ferme, cuite à cœur. Et encore, on n'est pas encore vers les 40$ à peu près du câble, que ça coûtait à peu près vers là, hein, début 2000. Mais ça peut venir. Et puis le câble, il y avait de la pub, d'ailleurs. Donc finalement, l'un dans l'autre. Donc non, Microsoft, il devrait plus s'inspirer de Netflix, parce qu'en plus, franchement, ils nous ressortent toujours les mêmes séries d'une année sur l'autre, Word, Excel, Teams, et puis elles sont chiantes en plus.
C'est quoi cette rêve d'ébouillanter la grenouille ? Je ne l'ai pas du tout, Guillaume, est-ce que c'est juste... c'est en référence à quelque chose ?
Je sais pas trop si c'est vrai ou pas, mais il paraît que si tu augmentes très 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 progressivement la température, la grenouille, elle se rend pas compte, elle se fait bouillanter sans s'en rendre compte. Je sais pas si c'est vrai ou pas, très honnêtement, parce que d'accord. J'ai jamais bouillanté de grenouille, je vous l'avoue.
Bah non, je voulais savoir si tu pratiquais la torture animale pour ça, mais je savais pas si je devais le classer dans les expressions désuètes ou pas, mais je risque de le ressortir. Allez, on continue. Alors ça me donne des mots de tête, là. Une fois de plus, j'ai l'impression que l'histoire se répète. TikTok banni mais pas banni, pas racheté mais sera peut-être racheté, et en plus on nous reparle des mèmes. On nous parlait déjà de Microsoft à l'époque qui pourrait racheter TikTok. Ça continue, j'en peux plus.
Ben oui, est-ce que TikTok va rester ou pas ? Est-ce qu'il y aura d'accord à la fin février ? C'est la question que je me pose tous les jours. Non, c'est pas vrai, je m'en fous complètement. Et le sujet me saoule, comme toi, évidemment, mais bon, c'est l'actu. Et puis d'ailleurs, effectivement, vous devinerez jamais qui est sur les rangs pour reprendre TikTok ou je sais pas, ou 50% de TikTok ou je ne sais quoi. Oracle et Microsoft, exactement comme en 2020. Ça fait 5 ans que ça dure. C'est la news de la marmotte. Voilà, j'en peux plus. Bon, est-ce que ça va marcher ? Parce qu'il faudrait que les Américains reprennent le paquet, hein, cette fois, tous les algos, parce que bon, si l'algo reste chinois, je sais pas, enfin bon bref, je ne sais pas si ça va se faire, c'est pas gagné. Mais en attendant, et contre toute attente, y compris les miennes, hein, Red Note, alias donc le fameux Xiaonshu, dont on a parlé il y a peu, reste dans le top des téléchargements, non seulement aux États-Unis où TikTok est pourtant revenu, mais aussi ailleurs, alors il est revenu mais il n'est toujours pas téléchargeable au moment où je parle, hein. Mais aussi ailleurs dans le monde où TikTok n'est pas du tout menacé, en tout cas a priori, il va être Red Note, donc Xiaonshu, et pas mal téléchargé. Pourquoi ? On ne sait pas. Il y a forcément eu une couverture médiatique énorme ces derniers jours. Tech Café en a parlé, ce qui suffit forcément à faire exploser sa popularité dans le monde francophone, bien sûr. Mais pour le reste du monde, je ne me l'explique pas. Vraiment, je ne sais pas. Dans 42 pays non occidentaux, l'application a été dans le top 3 des téléchargements entre le 13 et le 21 janvier. En Algérie, au Mexique, au Pérou, par exemple. Alors, les experts l'expliquent par l'air du temps, donc ils l'expliquent pas trop, en fait. Mais disons que ça se passe aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, c'est assez médiatisé, forcément, c'est très suivi. Et donc, ça donne envie d'explorer d'autres applis chinoises, peut-être. Bon, c'est fun. Mais d'ailleurs, il y a un auditeur, c'était peut-être Mika, je sais pas, je m'excuse si c'est pas lui, je sais pas, mais en tout cas, il y a un auditeur qui mentionnait que les Chinois étaient quand même incroyablement forts pour faire des applications sociales, et en effet, ils le sont, et ils sont même inimitables pour le moment. Et le fait est que tout le monde essaye de faire pareil, hein, que TikTok, avec les Reels, avec les Shorts, avec ce que vous voulez, mais personne n'a réussi à créer exactement la même chose que sur la forme, parce que sur la forme c'est pareil, mais sur le fond, c'est pas pareil, ça reste différent. Les utilisateurs de TikTok mentionnent souvent une différence fondamentale avec Instagram, qui est pourtant devenu formellement très proche. Hein. En fait, les vidéos se propagent pas pareil. Sur Instagram, elles sont d'abord poussées aux proches et aux followers. Sur TikTok, n'importe quoi peut être vu par n'importe qui si l'algo décide que c'est tendance. Allez. Sur TikTok, les utilisateurs parlent de communautés, de pairs, qui se parlent et s'échangent des choses, d'une authenticité. À l'inverse d'Instagram, où on doit se montrer et performer. Les gens sur TikTok seraient plus proches, ce serait plus brut. Alors, vrai ou pas, moi je suis mal placé pour en parler, hein, mais c'est le ressenti de beaucoup de gens, et TikTok capitalise énormément là-dessus. Avec la deuxième chose que les Occidentaux n'arrivent désespérément pas à faire, c'est le commerce social. Les Chinois sont devenus des spécialistes là-dessus. Des spécialistes du shopping récréatif et du e-commerce social, avec des influenceurs par milliers qui ont l'air proches de vous, des gens comme vous, qui testent des nouilles, qui mangent des nouilles comme vous, c'est-à-dire salement, en mettant sur la moustache, et que vous pouvez acheter immédiatement, la plateforme de e-commerce et le réseau social étant indissociable. Et c'est aussi le cas de Red Note, d'ailleurs. Et avec ce mélange, les Chinois ont trouvé la bonne recette, il semblerait, enfin. Pour moi, ça ne conviendrait pas du tout. Ils ont trouvé la bonne recette, commercialement parlant. Moi, ça ne me convient pas du tout, ce genre de truc, mais ça convient manifestement à plein de gens. Après, il faut relativiser, hein, le phénomène Red Note est marrant et intéressant, mais si TikTok disparaît aux États-Unis, c'est à Meta que ça va profiter. Et maintenant, on en est sûr, puisque au lendemain des annonces de Mark Zuckerberg, dont on a, voilà, qu'on a relaté, bien entendu, vous vous en souvenez, il y a eu un appel à boycotter Meta, que je peux renouveler ici. Je le dis, n'enrichissez pas Meta. Voilà, je l'ai dit, et ça n'aura sans aucun doute aucun impact, ou quasiment aucun impact, en tout cas autant d'impact et d'efficacité que la semaine dernière. Et je m'explique. Enfin, quand j'en parlais, la semaine dernière, je crois. Parce que, selon Business Insider, il y a eu un fléchissement du nombre d'utilisateurs Facebook en janvier, suivi par un rebond, quand la Cour suprême a décidé de maintenir la loi qui risque de bannir TikTok. Aujourd'hui, l'engagement sur Facebook est revenu au même niveau qu'avant la décision de Zuckerberg, sur l'arrêt du fact-checking, hein, et donc des politiques sur la haine en ligne. Si TikTok part, c'est plus de 3 milliards de revenus supplémentaires projetés pour Meta. Donc autant dire que ça lui ferait bien plaisir. Et du reste, les gens qui sont d'accord avec Mark Zuckerberg, ils n'ont pas de raison de partir. Et selon un sondage, seuls 25% de la population générale serait enclin à partir. Un tiers des gens approuvent complètement le changement, et un autre tiers s'en fout complètement. Et parmi les jeunes, entre 18 et 24 ans, la moitié est à fond pour. Bravo les jeunes. 18 ans et déjà réac. Les temps changent. Bon, je sais, ça fait boomer, mais là, franchement, je m'en fous. Ce qui me rassure un tout petit peu, c'est que ce sont des chiffres états-uniens, ce sont des chiffres américains. Donc j'ai l'espoir que ça soit substantiellement différent en France et en Europe.
Oui.
Et donc je dis rien sur les jeunes français, en tous les cas.
D'accord. Respect à eux, en tout cas.
A priori, mais si jamais il y a un sondage qui vient, attention, je ménagerai pas mes mots, attention.
Confiance a priori pour les jeunes en Europe et en France. On vous regarde, la pub arrive, hein, sur Threads, on aurait pu s'y attendre. C'est déjà en test et évidemment ça va pas tarder à arriver. Il va falloir choisir, hein, du coup, parce que on a envie de réseaux sociaux. Quand je dis « on », vous mettez derrière ou pas. On va bientôt pouvoir les kickstarter, c'est ça Guillaume? Quel sera l'avenir des réseaux sociaux?
Le souci qu'on a ici en Europe, c'est qu'on a des réglementations, quoi. Alors on a le DSA, on est content. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'alternative locale et bio aux plateformes américaines majeures. Donc on est bien dans le caca parce que tout le monde utilise tous les jours une montagne de technologies numériques et de plateformes américaines, et moi le beau premier, hein. Certains parlent même de colonies numériques des États-Unis. Mais bon, là, ce qui se profile, c'est que les US sont plus vraiment nos amis, hein. C'est même eux qui le disent, hein, plusieurs fois par jour. Et s'il commence à avoir des valeurs plus très Charlie qui vont en rebours des nôtres, va falloir résister, quoi, ou se soumettre et basculer. En tout cas, ça va pas être facile. Les alternatives aux plateformes qu'on qualifie parfois déjà d'oligarchiques sont toutes petites et techniquement, encaisser potentiellement plusieurs milliards d'utilisateurs, c'est lourd. Bon, on peut rêver, hein. On parle de Blue Sky, de Mastodon aussi, il y a aussi PixelFed, Loops et Sup, entre autres, hein, qui sont des alternatives à Instagram, TikTok et WhatsApp dans leur principe. Je parle de celles-ci parce qu'elles se lancent justement sur Kickstarter pour lever des fonds, tout simplement pour rajouter des capacités, hein, et être plus crédible en alternative. Donc ça rejoint carrément ce qu'on disait sur Mastodon la semaine dernière, hein, puisque son créateur a laissé les rênes à une association qui pourrait elle aussi lever des fonds pour maintenir un réseau qui va grandissant. Alors, à quelle vitesse et jusqu'à quel point, on ne sait pas, mais bon, ça va grandissant. D'ailleurs, PixelFed et les autres sont aussi basés sur ActivityPub, hein, le même protocole que Mastodon. On pourrait être face à une vraie alternative. Des réseaux décentralisés, interopérables et financés par des organisations ou des collectifs, et donc jamais par des gens particuliers, quoi. Avec pas de pub, hein, plus de ciblage, plus de dark patterns, plus d'algo addictif, plus de commerce permanent, ce serait pas mal, hein. Ça pourrait être très cool. Après, les chiffres de Business Insider ne me rendent pas très très optimiste, je l'avoue. Mais il ne faut pas essayer Stunton, il ne faut pas partir perdant, il faut y croire, parce qu'après tout, pourquoi pas? Il pourrait y avoir des alternatives décentralisées, et même pourquoi pas l'émergence d'acteurs commerciaux, mais européens, voilà, hein, et qui respectent le DSA de base déjà.
Si vous êtes sensible au financement participatif et avant d'aller kickstarter des réseaux sociaux, j'allais dire, inscrivez-vous sur patreon.com/techcafé, ça me paraît bien plus prioritaire. Au passage, vraiment, sur Blue Sky, ça dure, hein, encore, Guillaume. Je dois dire que les dernières quelques publications que j'ai pu faire sur X à titre personnel, alors, n'avaient vraiment aucun engagement. Je pense que tout le monde s'en fout. Alors, peut-être que les gens s'en foutent de moi à la base, hein, et c'est tout à fait compréhensible. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent encore plus qu'avant. Et le flux, l'algo, enfin, le feed de X était devenu vraiment insupportable pour moi, je peux plus y aller. Et alors, ce qui est marrant, c'est sur Blue Sky, tu vois, j'ai bien moins d'abonnés que sur X, j'en ai pas loin de 3 fois moins, et pour autant, à chaque fois que je poste des choses, je vois qu'il y a des réactions, de l'engagement. Alors, je dis pas qu'il y a des torrents de réactions, mais il y a les petits likes qui vont bien sur les publications, qui montrent que les gens les lisent ou like par erreur peut-être, mais je dois dire qu'il y a, j'y retrouve plus d'engagement avec moins de monde, pourvu que ça dure. On continue avec Trump qui pardonne, et il va tous nous pardonner, Guillaume, on peut se réjouir à l'avance.
Bah oui, Trump c'est le pardon, hein. Il pardonne tout le monde, les émeutiers du 6 janvier, parce que tu comprends, c'est des héros de la liberté qui luttaient contre une élection volée. Il va falloir s'habituer à ça, hein, parce que là, le code source de l'histoire, il vient de faire un fork. Tu vois, Trump a été élu 3 fois d'un côté et 2 fois de l'autre, voilà. Alors bon, sinon, il a aussi gracié Ross Ulbricht, qui a maintenu le site The Silk Road, sorte de bon coin du dark web, où on pouvait trouver de tout, mais surtout de la drogue, et des armes à feu, et des faux papiers, tout ce que tu veux. Alors c'est vrai qu'il avait eu une lourde peine, puisqu'il avait eu la prison à vie quand même, et qu'il est en taule depuis déjà 10 ans, mais quand même, why? Comment tu justifies politiquement de gracier un mec qui s'est fait ex-doubler en vendant de la drogue? Enfin, en permettant la vente de drogue et autres joyeusetés, hein, d'ailleurs.
Parce que c'est un vrai mec, lui.
Hein, c'est bizarre quand même. Surtout qu'il a toujours tout nié, alors qu'il a été pris sur le fait, laptop ouvert, hein, le mec a vraiment... Bon. Eh bien, la réponse, c'est parce que c'est une promesse faite au lobby des cryptos, c'est tout. Hein. Silk Road était un des principaux usages de Bitcoin à l'époque, hein, quel pédigré. Donc l'éthique et la morale, on s'en fout. Les bros, c'est le plus important. Hein. Et puis les crypto-bros, ben, ils ont bien payé. Alors écoute, voilà. C'est outrancier, mais c'est pas un bug. Hein. C'est une feature de Trump, l'outrance et son équipe, hein, pareil. Et pourtant, à un moment, ben, les outrances qui s'accumulent pourraient finir par énerver beaucoup de monde, voire même une majorité, puisqu'Axios révèle un sondage intéressant là-dessus. 60% des Américains n'apprécient pas que le président s'appuie sur des milliardaires pour guider sa politique. C'est ballot, vu ce qui est en train de se passer quand même. Sans surprise, 78% des démocrates, évidemment, sont dans ce cas-là, mais quand même aussi 35% des républicains, qui est quand même un peu significatif. Et surprise, seuls 29% des Américains approuvent la création du Doge. 36% ont une bonne opinion d'Elon Musk, c'est la population générale, hein, c'est tout parti confondu. Et 52% ont carrément une opinion défavorable. Et on apprend aussi dans ce sondage AP qu'une majorité des Américains, en fait, trouvent que le gouvernement ne dépense pas assez. Dans l'éducation, la sécurité sociale en particulier, ça risque de ne pas s'arranger les gens. Hein. Bon, bref. Pire, Trump a été aussi élu par dépit de l'inflation. Or là, il vient de dire, il vient de dire qu'il voulait mettre des droits de douane de 25 à 100% sur les puces importées. Les puces importées en particulier, il a parlé de Taïwan, c'est un scandale et tout. Je veux dire... C'est magnifique. Rendez-vous compte, il y a à peu près 5 boîtes qui concentrent 90% de la production de semi-conducteurs. Et parmi ces 5 boîtes, une seule est américaine, elle s'appelle GlobalFoundries. TSMC, donc la taïwanaise, c'est plus de 60% à elle seule, alors que GlobalFoundries, c'est je ne sais pas, 6 à 7%. Donc quoi ? 80% des puces, et pas que des puces, des téléphones ou ordinateurs, là on parle vraiment de tous les semi-conducteurs, 80% des circuits intégrés, quoi. Donc 80% de tout ça, des voitures, montres, en passant par les grippins, les frigos, vont avoir leur prix doublé. C'est... Et puis alors, je sais pas, mais ouais, Nvidia et Apple, c'est deux boîtes qui pèsent presque, enfin, grosso merdo, 1000 milliards de dollars, tu vois, c'est pas rien. Mmh. Elles achètent des puces à Taïwan.
Oui, par palette entière.
Je par palette entière. Et l'économie américaine, elle est bien contente de ça. Alors, c'est Donald, hein, donc on ne sait jamais ce que ça va donner au final. Hein. L'homme orange parle beaucoup, hein, il ne peut pas s'arrêter. Mais bon, faudrait pas qu'on oublie qu'il y a des élections de mi-mandat, quoi. C'est quand même marrant. Franchement, s'il met en place ce qu'il dit, ce qui est complètement con, hein, je veux dire, je vois pas comment le dire autrement, je prends un pot de glace et je regarde. Parce que ça va être très très rigolo.
Ouais, je suis pas certain que ça aille jusqu'au bout. Tu parlais du Doge, on a des premiers résultats de 80 premières heures de boulot. C'est 420 millions de dollars de contrats qui ont été annulés. Alors dis donc, ça part très fort, ça part très vite. Et pourtant, bah, ce serait que 3% de l'objectif. Alors en fait, j'ai vu ce chiffre, je me disais, mais c'est dingue. Ça veut dire que pour atteindre des réductions budgétaires de 60 milliards de dollars d'économies par an, ça voudrait dire que... c'est quoi si on fait la projection, c'était quoi les objectifs du Doge, Guillaume? Je ne sais pas si j'avais les chiffres en tête.
Il y en a plusieurs, non, je n'ai pas les chiffres en tête, mais parce que je ne suis même pas sûr que c'est... Enfin, je sais pas, il parlait de 100 milliards ou je ne sais même plus en fait.
Mais sauf que ça va être compliqué de maintenir ce rythme, non? Enfin, ça me semble très très compliqué quand même d'arriver à maintenir ça, mais bon. On continue justement, on parle d'Elon Musk et puis tu nous avais relayé avec quand même une certaine forme de scepticisme, hein, Guillaume, ses prestations dans Path of Exile. Si je résume un petit peu, très bien classé dans Diablo, pas mal, très bien placé dans Path of Exile, ça fait soulever des sourcils et en plus, il était intervenu dans des vidéos où vraisemblablement il n'était pas au fait du top gaming de ce jeu. Bon, bah, entre temps, il a reconnu, hein, Guillaume.
Alors, il a reconnu, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça serait confirmé, ouais, puisque Elon Musk est un escroc à Path of Exile 2, puisque un streamer a repéré un de ses persos de jeu niveau 96 qui bougeait en même temps qu'il était présent physiquement à l'investiture de Trump. Et son portable gamer allumé, hein, manifestement, donc ça paraît assez clair que quelqu'un joue à sa place. Alors, on sait pas qui, bien sûr. C'est peut-être un de ses enfants, je ne sais pas, mais bon, clairement, il partage son compte, hein, donc ça sème le doute. Sur ses performances, non seulement à Path of Exile 2, mais aussi à Diablo, bien évidemment. Est-ce qu'il l'a reconnu en public? Je ne sais pas. Il avait apparemment, je crois qu'un streamer ou un média, il avait plus ou moins...
Il me semble qu'il a échangé par message privé avec un streamer, effectivement, voilà, hein, en connaissant.
C'est resté privé. En tout cas, bon, le pro-gamer Elon va peut-être aussi se faire jeter de Reddit. Enfin, d'un grand nombre de flux Reddit qui n'ont pas apprécié son geste maladroit, tu sais, à l'investiture, ce fameux geste maladroit. Enfin, perso...
Cette crampe du coude, hein, c'est ça?
Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il a vraiment voulu faire. Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment voulu faire un salut nazi depuis le début. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Hein. Dieu merci. Par contre, moi, ce que je peux voir, c'est sa réaction à toute cette affaire. Parce qu'il a fait un geste qui a été interprété par les néo-nazis eux-mêmes comme en étant un de salut nazi. Toute la fachosphère se sent plus pissée après ça. Dans ce genre de cas, si tu as un geste qui a été récupéré par des gens que tu ne soutiens pas et qui a un sens aussi lourd que ça, aussi extrême que ça, bah, tu t'excuses. Je sais pas, c'est un minimum, non? Tu fais amende honorable. Tu dis vraiment, ouais, non, franchement, j'ai pas fait exprès, désolé, non, je suis pas nazi, j'encourage pas les nazis, voilà, tu fais amende honorable. C'est un truc que tu ferais, j'imagine, dans une situation-là, si, tu vois, si t'étais récupéré par des gens que t'apprécies pas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé nous faire foutre. Il a dit, m'emmerdez pas, le coup du nazi s'est usé, voilà, faites pas chier. Donc, quelle que soit son intention initiale, sa réaction à tout ça est de toute façon hautement problématique. Ouais. Tout ça venant avec beaucoup d'autres choses. Et problématique concernant Musk et X. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que bah, il est, de mon point de vue, parfaitement légitime que certains subreddits commencent à bannir X. Alors, en tout cas, ça veut dire que tout lien vers X sera interdit, voire parfois toute copie d'écran. Alors ça dépend, parce qu'évidemment, ça va varier en fonction des modérateurs et des subreddits. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est une action qui paraît anecdotique, mais qui me paraît tout à fait légitime.
Ouais, bon, j'ai mon avis pour m'être intéressé sur pas mal de personnes spécialistes du sujet sur le plan notamment historique. Il n'y a absolument aucun doute que ce monsieur a fait un salut nazi. Oui, il a bien reconnu avoir partagé son compte quelque part. Mais il s'en défend. Il a dit que de toute façon, c'est obligé pour rivaliser avec les joueurs asiatiques de le faire, puisque eux, de toute façon, ils le font. Donc écoute, si les autres le font. On enchaîne, Guillaume, avec une troisième et dernière rubrique de cet épisode supplément pour parler un petit peu de matériel. Et alors là, ça va permettre d'illustrer cet épisode, c'est ce que tu avais prévu, Guillaume. On va parler d'haltères. Alors, est-ce que tu veux te mettre au sport, c'est ça? Tu veux te mettre à l'haltérophilie? C'est la nouvelle rubrique dans ta café?
Ben, il faudrait, parce que voilà, avec mon corps de lâche, là, il faut quand même que je fasse quelque chose. Oh. Quel est le record du plus gros levé de disque dur? Eh ben, c'est simple, c'est... Alors, c'est des haltères en disque dur. Voilà, il faut des haltères en disque dur. Alors, c'est pas très répandu comme discipline, c'est vrai, les haltères en disque dur. Et puis, dernièrement, c'est devenu des SSD, donc c'est des haltères en SSD. Mais ça change rien, il y a eu un record de levée de SSD qui est détenu par, alors, Hafþór Júlíus Björnsson, qui est l'acteur qui jouait la montagne dans le Trône de Fer et qui a soulevé pour 453 kilos de SSD avec ses énormes bras tatoués. 453 kilos de SSD qui représentent 280 pétaoctets, soit le record absolu de volume de données soulevé par une seule personne. C'est un coup de pub, évidemment, c'est un coup de pub de Phison et Vdura, spécialistes des SSD et Prestatar Cloud, et leurs affaires vont bien à eux, parce que l'IA, elle a aussi besoin de beaucoup de stockage, décidément, elle a vraiment beaucoup de besoins, et elle a besoin de stockage rapide, hein, de préférence, et donc les tailles des SSD n'en finissent plus de monter. On va passer à 128 teraoctets chez Phison, 123 chez Solidigm, et bientôt autant chez Samsung, d'ailleurs, hein, c'est prévu, et tout ça pour pas plus cher que les 64 teraoctets actuels, qui étaient déjà le maximum pour le moment, quoi. Le principal facteur de progression des tailles, c'est le nombre de bits par cellule, hein, qui peut passer de 3 à 4 pour les plus gros disques. Il y a une concession qui est faite sur la vitesse, en particulier la vitesse d'écriture, mais ça vaut le coup, puisqu'il y a quand même, là apparemment, il y a une demande, ils voient vraiment une demande pour toujours plus de volume, quoi. Et puis pour aller encore plus loin, bah, ils vont empiler toujours plus de couches, des couches toujours plus denses. Plus de couches, ça fait un truc plus épais d'ailleurs, mais bon, bah, c'est pas super grave. Donc l'IA profite aussi aux producteurs de SSD, hein, décidément, c'est impressionnant.
T'imagines la réunion du service marketing quand même. Comment est-ce qu'on pourrait promouvoir nos capacités de stockage avec nos appareils? Et on n'a qu'à faire un concours d'haltérophilie où les types soulèveraient des disques durs. Oh, bah, bonne idée, on y va à fond. Intéressant. C'est en tout cas pas une idée retenue pour le marketing chez Sony, qui va un peu à l'inverse, hein, quelque part aux antipodes. Ils arrêtent, eux, les supports physiques avant que ça redevienne à la mode, comme les bons vieux vinyles, c'est ça?
Bah, c'est juste une petite news, effectivement, pour mentionner que Sony arrête de fabriquer plusieurs supports physiques bien connus qui fera ressentir de nostalgiques souvenirs à certains de nos auditeurs, puisqu'il y a le Blu-ray, le mini-disc, les mini-disques data aussi, et puis les cassettes mini-DV. Et je me rends compte d'ailleurs que j'ai tout utilisé, voilà, sauf les MD data, ce qui trahit, disons, ma grande expérience du milieu, puisque les cassettes mini-DV ont été introduites quand même en 95 et les mini-disques en 92, et que j'en ai toujours, et que d'ailleurs mon Mulder fonctionne toujours. Alors attention, quand je dis que Sony arrête le Blu-ray, je parle des Blu-ray réinscriptibles, c'est-à-dire ces fameux BDR ou RW là, que vous pouvez mettre dans les ordinateurs. Évidemment, plus personne n'a des lecteurs de Blu-ray, je pense. Il y a encore moins des graveurs de Blu-ray, mais ça doit être assez rare. Par contre, ils vont continuer à produire des Blu-ray pour les films, hein, les Blu-ray de films de cinéma que vous trouvez à la Fnac, je pense qu'ils continueront encore à sortir dans le commerce pendant un bon moment.
Pour la PlayStation 5 et la Xbox.
Il faut. Alors, c'est des Blu-ray, oui, enfin, c'est des Blu-ray plus haute densité. Mais effectivement, ça fait quelque chose quand même de se dire que voilà, il n'y aura plus donc des mini-disques et des mini-DV. Verbatim continue à produire des Blu-ray réinscriptibles. Hein. Pour le reste, je ne sais pas trop. Si vous en voulez, faites un petit stock, parce que bon, bah, je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui continuent à produire des mini-disques ou des cassettes mini-DV, peut-être les cassettes mini-DV plus. Donc il va falloir effectivement continuer à en faire des petits stocks. Je ne suis pas certain que le mini-disque revienne à la mode, mais tu sais qu'il pourrait, parce que il a un côté rétro-futur, hein, le mini-disque, clairement. Donc, c'est des petits... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des petits disques qui sont dans une espèce de cartouche en plastique, comme ça.
C'est mignon.
Et qui peuvent enregistrer jusqu'à 4 heures de musique, bon 4 heures de musique, en qualité CD, puis j'utilise un algorithme de compression. Un des premiers algorithmes de compression, d'ailleurs, qui était même avant le MP3, c'était la track. Et donc, c'est ces trucs-là, c'est assez marrant, parce que, par exemple, dans Matrix... Eh ben, Neo en utilise pour stocker des données. Donc, il y a vraiment un côté rétro-futuriste à ce truc-là. Et on va savoir peut-être un jour, effectivement, ça sera très recherché, je ne sais pas.
Pourquoi est-ce qu'ils étaient toujours fournis avec... et pourquoi est-ce que ça fonctionne en boîtier comme ça? C'est que c'était plus compliqué de l'enclencher comme un tiroir d'un CD vis-à-vis du support au milieu là, pour le faire tourner. C'est qu'en gros, tu mettais ça comme une cartouche et il n'y avait pas besoin de l'enclencher comme on le fait avec un CD. Non,
oui,
je ne sais pas pourquoi c'est fourni dans une espèce de boîtier.
Ils auraient très bien pu faire un tout petit disque. Hein. C'était tout à fait possible, ouais. D'ailleurs.
Ça aurait été encore plus mignon, on est d'accord.
Oui, mais d'ailleurs, c'était la même époque. D'ailleurs, c'est un petit peu la même technologie où la PSP utilisait donc ces fameux petits disques aussi, pareil. Mm-hmm. Hein. C'était un petit peu le même système. Et en réalité, c'est la même chose. C'est juste que le disque est protégé, tout simplement, dans un petit support en plastique. Et que dans le cas du mini-disque, bah, y a une petite porte comme ça qui coulisse et qui vraiment protège le disque pour pas qu'il y ait de poussière dedans ni rien. C'est vraiment un système de protection et du coup, effectivement, on le mettait pas dedans comme un CD, on l'enclenchait comme une espèce de cartouche. Ouais.
Okay.
C'était pas forcément plus facile d'ailleurs, je pense, au niveau ingénierie, mais par contre, ça donnait des trucs qui sont très... Bah, qui du coup sont très, très, très durables, hein, parce que c'est très difficile à rayer, hein, pour le coup. Là.
Bah forcément, oui. La durée de vie, effectivement. Alors que j'ai retrouvé, en faisant du ménage là chez moi, j'ai retrouvé un carton de vieux CD sur lequel il y avait des archives. Il faut que je me dépêche de voir s'il faut que je les mette à la poubelle ou s'il faut que je peux les copier. Parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont désormais plus forcément lisibles. Allez, on change un petit peu de rythme. Là. On prend quelques secondes pour souffler. On n'est pas dans la rubrique inspiration de Niptech, mais quand même, on va se tourner un petit peu vers une autre tech, Guillaume, celle qui nous permet de nous détendre un peu et de partir loin de ce rythme effréné.
Oui, on dit souvent que la tech crée trop de distractions, et perso, j'essaie de les éviter au max, hein, en désactivant tout ce que je peux sur mon téléphone, parce que je déteste que mon téléphone il m'interrompe quand je réfléchis. Mais c'est pas simple, parce que la tech, elle est construite pour vous envahir la vie, pour capturer votre attention. Alors quand d'autres marques, justement, prennent le contre-pied, bah, il faut les encourager. Et c'est l'objet même d'un nouveau label qui s'appelle le Calm Tech Technology, qui est fait par le Calm Tech Institute, où on est pépère tranquille. Voilà. Où on n'aime pas se faire emmerder par des machins qui vibrent toutes les 30 secondes. Le label contre 81 points, que je vais vous énumérer tout de suite. Premièrement, non, je rigole, parce que j'ai envie d'aller dormir avant 4h du mat. Donc, disons qu'il y a plein
de critères. J'ai peur, une fraction de seconde.
Il y a plein de critères, donc aussi, plein de critères sur les matériaux, la réparabilité, évidemment l'interface, et puis le caractère non-invasif de l'appareil, et qui donne donc finalement un score, une note, hein, et il y a même déjà des appareils grand public qui ont été certifiés. Alors, ils ont été certifiés comme étant conformes au label Calm Technology. Et il y a par exemple la tablette Remarkable, la Remarkable Pro, qui est donc une tablette e-ink de prise de notes, va jouer là-dessus. C'est vraiment sa philosophie, quoi. Elle a tout un aspect concentration, tu vois, où on ne te perturbe pas, tu fais ton truc, tu te concentres sur ton truc. On élimine donc au maximum les interruptions et puis au maximum le nombre de fanfreluches non essentielles à la fonction principale, quoi. Alors, il peut y avoir des trucs très très simples qui ont le label calme, comme des détecteurs de CO2 radon qui ne font que ça, quoi, mais qui le font bien. Et puis, il y a des trucs un peu bizarres, mais pourquoi pas, comme une clé physique qui verrouille les apps distrayantes. Donc, tu choisis les apps qui te bouffent la vie, au hasard complet, Instagram et TikTok, et ton téléphone ne t'y donnera accès que si tu vas chercher la clé, que tu mets que tu la montres à ton téléphone. Le but, c'est de rajouter de la friction aux applications pour passer naturellement moins de temps dessus. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas? C'est assez fou qu'on en arrive à des extrémités pareilles, mais bon. Il y a aussi un hub de maison connectée qui est en bois, avec quelques icônes minimalistes et une interface en deux lignes de texte. En fait, c'est un écran qui s'allume, il y a des LED derrière, quoi. Ça fait un écran pixelisé, quoi, très très pixelisé. Et c'est très simple, l'interface est minimaliste, et du coup, bah, évidemment, sur cette interface-là, on ne peut pas te montrer de pub flashy, de vidéo, non, il n'y a que les fonctionnalités, c'est tout, c'est simple, direct, et c'est super, quoi, en fait, ça suffit. Donc, il y a une tendance intéressante de la Calm Tech, qui est une tech qui est à votre service, et pas l'inverse, comme c'est le cas, en général.
Ça me parle beaucoup, tu sais qu'on parle de la Remarkable, j'avais fait un tout petit épisode l'été dernier pour parler de mon chouchou, de mon appareil favori, là, je l'ai encore sous les yeux, je prends une petite note pendant qu'on enregistre, le Supernote, je trouve cet appareil absolument génial, c'est une petite tablette e-ink, qui est loin d'être donné aussi, je trouve, mais qui répond bien, je pense, à ces enjeux de slow tech, puisque tu as vraiment le sentiment d'écrire, puis tu as quand même des avantages à l'avoir en numérique plus qu'un carnet papier, avec une grande réparabilité, une grande durée de vie, plus encore que la Remarkable, parce que la Remarkable, au passage, elle nécessite assez vite un abonnement, et ça, ça devrait être banni, tu vois. Tu devrais pas avoir un appareil tech qualifié de calme tech.
Attends, tu peux
mais
pas
avec
du
un
tout
abonnement.
L'utiliser sans abonnement, ou c'est juste pour des services
de Remarkable, je pense que Remarkable, très très vite, les services les plus intéressants nécessitent un abonnement. Je crois que tu... Bah, très bonne question. Moi, j'avais en tête le fait que au-delà d'un usage vraiment basique, tu as besoin de l'abonnement. Mais je vous laisse me corriger et puis je ferai mes devoirs si jamais c'est pas le cas pour le prochain épisode.
J'ai pas regardé.
Il me semblait. Et au passage, ça me fait penser, il y a Abrège, c'est une chaîne YouTube d'un maker, il fait des choses en impression 3D, en électronique, qui avait fait comme ça une vidéo sur un coffre dans lequel tu enfermes ton smartphone pour ne pas être distrait pendant un moment donné et vraiment bosser. Tu vois à quoi on en est rendu finalement. Allez, on continue avec la gestion de l'énergie. Est-ce qu'on va pouvoir se tourner vers une alternative quasiment carbone neutre? C'est nos enjeux, hein, Guillaume, pour la planète.
Oui, figure-toi que parce que je l'ai appris finalement dans cet article, hein, je n'avais pas conscience de ça, mais on peut extraire de l'hydrogène du sol, comme le gaz naturel. Hein, voilà, on peut extraire du gaz, mais bon, c'est pas du méthane, quoi, c'est du gaz naturel, c'est de l'hydrogène. Il y a de l'hydrogène dans le sol qu'on peut prélever par forage, donc c'est une énergie fossile, et donc qui n'est pas vraiment renouvelable, mais qui est carbone neutre, puisque c'est de l'hydrogène, donc il n'y a pas de carbone, quoi. En fait, dans le sol, certaines roches, comme les olivines riches en fer, vont conduire à des réactions chimiques sous la pression qui vont péter des molécules d'eau, qui est dans le coin, quoi, et qui vont produire de l'hydrogène. Il y a la radioactivité aussi qui peut contribuer à tout ça. Il serait même possible de favoriser ce processus en envoyant de l'eau sous terre. Alors, je ne sais pas à quel point ça marche bien, à quel point ça prend du temps, ou rendre le truc un peu renouvelable, je ne sais pas exactement. Mais tout naturellement, les gens qui forent, qui sont spécialistes de faire des trous et des gros trous, ils commencent à s'intéresser au forage pour récupérer de l'hydrogène directement. Parce que why not, hein, c'est inflammable, ça explose ma main, mais le gaz naturel aussi, c'est dangereux de toute façon. Et on pourrait avoir une énergie d'extraction qui soit carbone neutre, par définition, quoi. Alors c'est étonnant comme perspective, et il y a beaucoup de questions encore, évidemment. Le prix, bien sûr, il faut que ça soit pas trop cher à extraire, hein, idéalement le même prix que le gaz, ou moins, mais pas beaucoup plus, quoi. Et l'autre gaz, je veux dire, l'hydrogène est très peu dense, donc il y a aussi toutes les problématiques de stockage, de transport en masse, forcément, parce que bon, voilà, c'est pas évident, forcément, à manipuler. Et puis il faut mentionner aussi qu'il y a quand même un vrai souci possible, c'est que l'hydrogène est par définition carbone neutre, évidemment. Mais il contribue aussi indirectement au réchauffement climatique quand il est sous forme libre dans l'atmosphère. En fait, l'oxygène qui est libéré, il a deux destins. 70 à 80% de l'hydrogène est capturé par les sols, par les bestioles qu'il y a dedans, les bactéries, tout ça, et le reste subit une réaction d'oxydation qui bouffe de l'hydroxyle. Or, cet hydroxyle, c'est un truc qui réagit en général avec le méthane. Ce qui fait qu'au plus il y a d'hydrogène libre, au plus il y a de méthane et au plus il y a de méthane dégagé par ailleurs, au plus le méthane reste dans l'atmosphère, en fait. Tu vois, c'est parce que le méthane, c'est un gaz qui est un gaz avec un très fort effet de serre. Donc le truc, c'est pas vraiment que l'hydrogène pose un problème en lui-même, c'est qu'en fait, il bouffe l'hydroxyle, et cet hydroxyle sert à limiter la quantité de méthane dans l'atmosphère. Donc, au plus il y a. Donc, bon, on sait très bien qu'il y a énormément de dégagement de méthane. Il y a beaucoup de méthane dans l'atmosphère en ce moment. Et donc, si tu veux, indirectement, rajouter l'hydrogène, c'est aussi rajouter du méthane indirectement, tu vois, puisque ce méthane ne disparaît plus, quoi. Ça a rajouté le méthane qui ne disparaît plus. Bon, alors du coup, la question se pose. Oui, on ne va pas envoyer de l'hydrogène dans l'atmosphère, c'est pas le but, évidemment. Mais il y a toujours des fuites. Donc si on extrait de l'hydrogène avec très peu de fuites, de manière très efficace, et que ça peut remplacer des combustibles carbonés, en fait, c'est bon. Mais si jamais il y a beaucoup de fuites et qu'il y a des gros dégagements, à chaque fois, c'est un peu comme si on rejetait du méthane indirectement. Et là, c'est pas bon du tout. Donc c'est à prendre avec prudence. Mais bon, forer, c'est quand même vachement à la mode en ce moment, donc voilà, peut-être ça a un avenir.
Drill, drill, drill. Allez, on termine avec Google qui voudrait se faire une place dans le monde de la réalité mixte.
Il se passe des trucs chez Google, du côté de la réalité mixte. Android XR est en cours de finalisation. C'est un nouveau système d'exploitation qui est assez intéressant, qui est une réponse donc évidemment au Vision OS d'Apple. Google a débauché d'ailleurs des équipes de chez HTC pour le finaliser et pour créer un casque modèle un petit peu qui s'appelle le projet Muan. Équipé d'Android XR et qui a été testé tout dernièrement par Marques Brownlee, donc c'est en marge du Unpacked, de l'événement Unpacked de Samsung. À première vue, bien sûr, le casque de Samsung, il ressemble évidemment un peu à un Vision Pro, hein, mais Dieu merci, sans les yeux devant, ça c'est pas mal. C'est un casque XR, donc réalité mixte comme le Quest 3, il a une définition qui est très bonne, quoique un peu en dessous du Vision Pro, Et il se pilote intégralement avec les mains, bon, même si des contrôleurs seront peut-être inclus à terme, on n'en sait rien. Là, tout se fait naturellement avec des pincements de doigts, comme le Vision. Le casque est assez confortable, il utilise une batterie externe en USB-C. Et dedans, bah, c'est Android. Donc toutes les applications Android fonctionnent tranquillement, quoi, aucun problème. Et certaines, les applis Google pour le moment, ont une version réalité mixte qui peut se déployer, en gros, dans l'espace, alors sur plusieurs fenêtres, ou carrément en relief, en 3D, etc. Et vous pouvez instantanément utiliser clavier souris Bluetooth, voilà, comme sous Android, parce que bah, c'est Android, quoi. Et c'est très facile à utiliser, enfin, c'est assez immédiat, tu peux le passer directement à un ami hein, pour lui montrer un truc. Le casque fait une calibration, mais c'est très rapide et c'est quasi automatique. Donc l'espace interpupillaire est géré automatiquement, tout est très simple. Le truc qui a le plus convaincu Marcus Brownlee, finalement, c'est Gemini. Et tous les outils IA de Google intégrés en général. Parce que tout ce qu'on a dit sur le Galaxy S25, ou presque, est vrai ici. On a le Circle to Search, par exemple, hein, il marche, mais dans la vraie vie. Vous pouvez entourer avec votre doigt une paire de baskets que vous avez devant vous, quoi, par terre. Et puis, il va vous la trouver sur Amazon, il n'y a aucun problème. Vous lisez un géo sur l'Égypte, bah, il vous dit « Emmène-moi là-bas à Gemini », il vous ouvre Maps non seulement en Égypte, mais au bon endroit que vous êtes en train de regarder. Si, évidemment, l'endroit est un minimum connu, hein, bien sûr. Si vous avez un panneau en japonais, bah, vous le traduisez à la volée, il n'y a pas de problème. Si vous avez un problème de maths dans un bouquin, et bah, il vous donne la réponse, etc., etc. Gemini peut écouter en permanence et voir ce que vous voyez dans la vraie vie et réagir en fonction de ce qui vous entoure. Ça donne une nouvelle dimension à ce qu'on commence à voir déjà apparaître sur les smartphones. Surtout, Marques a beaucoup apprécié qu'on puisse demander de faire des trucs à Gemini en notre place. Ouvrir une appli, changer un réglage, bouger des fenêtres et les organiser. Gemini peut faire des trucs dans l'OS, mais aussi dans certaines apps, prévues pour ça évidemment. Donc plutôt les applications spatiales, dans Google Maps par exemple, tu peux presque tout faire à la voix en réalité. Et c'est très cool parce que tu disais que tu voyais pas trop l'intérêt parce que, effectivement, en quelques clics sur un téléphone, tu peux le faire, c'est vrai. Mais en réalité mixte, c'est fatigant. Parce que c'est fatigant, la VR, en fait. Il faut bouger les bras en permanence pour aller manipuler des trucs dans un espace qui est assez grand, en fait, devant toi. Et donc, c'est beaucoup plus fatigant que juste, et beaucoup plus lent aussi, que juste bouger ses doigts sur un clavier ou sur un petit écran tactile. Gemini, finalement, permet d'économiser beaucoup de gestes à la fin de la journée et c'est apparemment un vrai plus par rapport à Apple qui propose pour l'instant rien de tout ça. Donc on ne connaît pas du tout le prix, ni la date de sortie de ces trucs. Hein. Bon, son ambition, c'est d'être une sorte de pixel, mais pour la réalité mixte. Donc c'est la vision Google pure, en quelque sorte, hein, et puis les autres pourront s'inspirer de ça, en partant d'Android XR. Une fois le casque finalisé, ben, on pourra voir un contenu de son prix, et puis des applis disponibles, on pourra voilà, comparer la vision de Google et le vision d'Apple, et on verra bien ce que ça donne.
Et on comparera les prix, et je ne serais pas étonné qu'il soit nettement moins cher, mais bon, il y a de la marge. J'en profite pour me m'auto-corriger, Guillaume. Je dois donner des précisions pour l'abonnement Remarkable qui s'appelle le Remarkable Connect. Et je pense qu'ils ont revu ce problème. Je crois que vraiment, c'était un problème qu'il y avait sur ce produit qui dépendait beaucoup des abonnements. Ils ont revu leur format d'abonnement. Donc, je crois que c'est 3$ par mois. Il faudrait voir en euros, ce qui te permet d'avoir un stockage illimité sur leur cloud, la synchronisation automatique. Et l'édition dans leurs applications mobiles, genre tablette, smartphone, des documents de Remarkable et puis une espèce de partie assurance, enfin en tout cas garantie protection étendue. Et par contre, sans l'abonnement, on peut tout à fait synchroniser sur Google Drive, Dropbox, OneDrive, avoir la reconnaissance de l'écriture manuscrite si vous n'écrivez pas comme un médecin, la possibilité de lire, de partager l'écran. Enfin bref, énormément de fonctionnalités qui avant, hein, je crois vraiment, étaient réservées à l'abonnement. Maintenant, c'est plus nécessaire. Le seul truc qui me paraît un peu pincre, c'est la synchro automatique. Quel que soit le service de cloud, de payer 3 balles pour avoir le droit que ton appareil se synchronise automatiquement, je trouve ça un peu abusé. Bon, en tout cas, vous êtes à jour entre l'épisode hebdomadaire et cet épisode supplément de Tech Café sur tout ce qui s'est passé dans la tech, en tout cas tout ce qui était absolument essentiel et incontournable. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. J'espère que vous avez pu avancer en parallèle, pendant que vous écoutiez cet épisode, soit avancez au premier sens du terme parce que vous utilisiez les transports ou que vous étiez en voiture, faites attention à vous si vous êtes sur la route, ou si vous avez avancé dans vos projets de bricolage, dans votre rangement, votre ménage ou votre sport. On est ravis que vous puissiez écouter les épisodes, on est tout autant ravis que vous puissiez réagir au sujet qu'on aborde. Que ce soit pour encenser nos propos, aller dans notre sens ou évidemment nous corriger, on vous écoute et c'est très précieux. Pour ce faire, vous pouvez aller sur Discord, techcafé.fr/discord. Dans les commentaires sur techcafé.fr, vous pouvez commenter les articles qui accompagnent la parution des épisodes. Et vous pouvez également interagir avec nous à titre individuel. Et ça, c'est une belle promesse que tiennent les podcasteurs, c'est d'être joignable à titre individuel. Guillaume, tu vas pouvoir nous dire où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver.
Ah, mais moi, on va pouvoir me retrouver justement. Je vais aller, je sais très bien où on va y aller. Moi, je vais aller faire un tour au Calm Tech Institute et postuler pour aller là-bas. Pour travailler là-bas, parce que j'ai besoin de calme, tu vois, de sérénité, de calme, de silence.
Oh, je te comprends. Eh ben, écoute, très bien, merci. Moi, vous me retrouverez derrière mon super note en train d'écrire plein de trucs probablement très, très importants et très intéressants, mais que je garderai quand même pour moi. Et plus globalement, vous me retrouvez sur Blue Sky. Vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. De temps en temps, assez régulièrement le soir, mais ça peut m'arriver aussi en journée, je peux diffuser des parties de jeux vidéo Zelda Echoes of Wisdom sur Twitch. Puis peut-être que vous me retrouverez aussi dans des vidéos sur une chaîne YouTube pour laquelle je vous mettrai là aussi le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. On compte sur vous si Tech Café a un rôle assez important dans votre quotidien. Si ça vous manquerait qu'il disparaisse, d'aller sur patreon.com/techcafé et d'envisager un abonnement, un soutien financier. C'est évidemment très précieux pour nous que vous puissiez simplement l'envisager. N'oubliez pas également de déposer des avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. Prenez soin de vous, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.